Pendant qu'il arrive, je vous le présente. Donc, Jean-Jacques Ménenberger est professeur de philosophie à l'université Jean Moulin, Lyon-3. Il a été directeur du centre de recherche Gaston Bachelard sur l'imaginaire et la rationalité, ce qui déjà serait une excellente raison pour qu'il vienne ici nous entretenir sur de Gilbert Durand. Mais il est aussi, et maintenant il est président de l'association des amis de Gilbert Durand, et son travail concerne notamment les problèmes de rationalité, d'imagination et d'imaginaire, chose dont on a déjà évoqué dont on a eu quelques évocations tout à l'heure, mais je pense que vous allez un peu développer. Vous avez écrit de nombreux ouvrages. On va voir que justement la question de l'image est au centre de tous vos travaux. Je citerai entre autres « La vie des images »,« Philosophie des images »,« Imaginaire du politique »,« Imaginaire rationalité des médecines alternatives » et le dernier, paru chez Millenis en 2012, « Gaston Bachelard, poétique des images ». Alors vous voyez que nous sommes en plein dans le cœur du sujet. Je vous laisse donc la parole.
Bonjour à toutes et à tous. Merci à l'association Stella et Henri Corbin d'accueillir cet hommage aussi à Gilbert Durand ce matin, ces deux compagnons, ces deux chevaliers dont vient de nous parler si brillamment et profondément Françoise. Nous sommes à une heure propice, comme disait Gilbert Durand à Eranos, puisque nous sommes à 8 jours du décès, la commémoration du décès de Gilbert, et des signes des temps fait que la semaine dernière, un certain nombre ici étaient présents à Chambéry pour l'inauguration d'un square Gilbert Durand à Chambéry, en présence de la députée maire. Les instances nihilistes sont quand même habitées par certaines formes de reconnaissance, et très beau square entre le lycée Vaugelas où Gilbert a fait ses études et l'Université de Savoie. Université effectivement qui accueille ces deux grands chevaliers à travers les instances les plus formelles. Et c'est un peu cette question que je voudrais aborder très prosaïquement avec vous. Comment peut-on être à la fois chercheur au CNRS, parce que Gilbert Durand, tout en ferraillant avec le CNRS, avait quand même, il y a plus de 25 ans, fondé un Gréco-CRI CNRS. C'est la cuillère du diable. Henri Corbin a œuvré pendant de très nombreuses années à l'école pratique et aux études. Et nous sommes ici dans une annexe froide de cette instance. Donc comment peut-on être à la fin du XXe siècle membre des universités en Occident et gnostique? C'est un peu la question. Une question redoutable parce que nous avons énormément de travail à faire sur cette alliance. Et la semaine dernière encore, j'étais à Prague à un congrès sur la phénoménologie de l'imaginaire, marquée par très forte présence des Husserliens, et parlant par ailleurs de Bachelard, j'ai ouvert une grande fenêtre sur Henri Corbin pour montrer que la pensée d'Henri Corbin était une phénoménologie du suprasensible, et là les yeux étaient écarquillés, et donc il reste beaucoup à penser, une phénoménologie qui est essentiellement axé au XXe siècle, le sensible. Qu'est-ce qu'une conscience gnostique? Comment peut-on faire une phénologie de la conscience gnostique? Donc il y a une énorme ignorance, je crois, du savoir académique contemporain sur ces ressources spirituelles qui nous intéressent et peut-être nous habitent. Et il nous faut continuer à œuvrer en ce sens pour élargir l'empan des références du savoir académique. Alors je voudrais essayer de trouver un chemin de crête entre deux positions que nous vivons, dont nous souffrons souvent, La première qui consiste effectivement à rejeter de manière très condescendante, souvent, les travaux de Gilbert Durand ou d'Henri Corbin du côté d'une marginalité mystique, voire pour Gilbert Durand dans le domaine des sciences humaines et sociales, dans le domaine de l'anthropologie, du côté de l'irrationnel. Et tu sais qu'il y a des clichés, des stéréotypes vengeurs dans l'université contre ce type de savoir. Mais de l'autre côté aussi, malheureusement, éviter certaines évaluations fougueuses d'amis, par exemple guénoniens, qui pensent déjà que, surtout Gilbert Durand, aurait sacrifié à quelque réductionnisme. Et ces ouvrages qui sont même le fait d'anciens de mes doctorants, on est toujours trahi par les siens, sont même préfacés par d'honorables amis, ici absents, et qui pensent qu'effectivement, Gilbert Durand est déjà une figure du nihilisme. Donc, nous devons assumer cette contradiction entre deux types de rejets. Je me sens souvent rejeté par deux familles. Alors comment tenir debout au milieu de cela? Je crois que c'est ce qui unit aujourd'hui les deux œuvres, dans la mesure où nous sommes aujourd'hui dans cette salle d'une université française en 2013. Alors, je voudrais d'abord essayer de revenir sur le moment épocal, même au sens heideggérien, qui les réunit, la synchronie dans la deuxième moitié du XXe siècle, qui les réunit à Paris, qui les réunit à Ispahan, qui les réunit à Ascona. C'est une époque qui, d'une certaine manière, et je crois que c'est très important, a permis pour la première fois dans l'histoire de la production du savoir académique occidental de déplier le savoir selon différents niveaux de discursivité, sur différents niveaux de rationalité qui revendiquent des modes de validation et d'implication différents. On a souvent dit que le XXe siècle était marqué par le grand retour au paradigme du langage et donc aussi au paradigme de l'interprétation qui a permis effectivement aux sciences de l'homme, et pour l'instant je mets évidemment sciences de l'homme au pluriel puisque telle est la nomenclature de nos académies, qui a permis aux sciences de l'homme de se constituer à l'ombre d'abord, puis à côté des sciences de la nature qui avaient mis au point, depuis Galilée, Newton, le grand modèle de la rationalité objectiviste, universaliste, déterministe. Et donc, lorsqu'on est, comme Henri Corbin, féru de textes allemands d'abord, traducteur de Heidegger, puis de toutes les textes et les langues moyen-orientales, lorsqu'on est comme Gilbert Durand, intéressé par les grandes traditions iconophiles de l'Occident, plongeant leurs racines dans le platonisme, le néoplatonisme, on a la possibilité de déployer son savoir au XXe siècle, dans les années 30, 40, 50, selon trois niveaux. Le niveau de l'explication, le niveau de la compréhension et le niveau de la participation. Et je crois qu'à travers ces trois barreaux de l'échelle de lecture des œuvres de la culture occidentale ou non, deviennent possibles des modes d'intellection différents qui vont trouver leur coexistence, leur emboîtement à l'intérieur non seulement de la culture, mais de la culture savante, non seulement dans la culture savante, mais dans la culture universitaire. Alors le premier mode de travail d'un esprit universitaire au XXe siècle, c'est le mode de travail de l'explication, des textes, des représentations, des croyances, des œuvres d'art plastique, par les outils classiques des disciplines qui se sont toutes développées au fur et à mesure du temps, 18e, 19e siècle, avec un horizon méthodologique, épistémologique, qui était celui des sciences objectives. L'histoire, la philologie, la psychologie, la sociologie, les sciences du vivant, se sont développées sur un mode rationnel, exotérique, en se référant à toute une série de catégories, des catégories notamment de la vie de l'esprit qui seraient axées sur des facultés, par exemple, facultés de l'entendement, de la raison, de l'imagination, de la volonté, de la perception. Il y a là, par conséquent, toute une rationalité de l'homme qui permet de rendre intelligibles des œuvres de l'esprit. Henri Corbin était, je l'ai rappelé, c'est important, car il ne l'a jamais oublié, ni renié, et son nom prononcé tout à l'heure par François me semble significatif d'une entente qu'il faudra peut-être continuer à approfondir. A été donc lecteur et traducteur de Heidegger, qu'il a connu, a été traducteur de Hamann. Et Gilbert Durand a très tôt présenté dans l'Encyclopédia Universalis, dans la première version, des articles sur Ernst Cassirer, auxquels il fera très très souvent encore référence, notamment ce philosophe néo-kantien allemand, à qui on doit la philosophie des formes symboliques trop peu connue en France. Donc voilà des événements académiques très importants qui montrent bien l'appartenance première, qu'il ne s'agit absolument pas d'oublier ni de renier, de nos amis aux normes de production du savoir hérité l'histoire officielle des disciplines des sciences humaines réglées elles-mêmes sur le modèle régulateur des sciences de la nature. Mais on le sait, deuxième moment, la fin du 19e, du 20e siècle a contraint d'ouvrir un espace spécifique, méthodologique et épistémologique, à l'étude précisément des œuvres de l'esprit. Et progressivement est née l'herméneutique, dont Françoise a parlé précédemment, d'origine allemande. Et là aussi, il faudra continuer à réfléchir sur cet héritage de la pensée allemande par rapport à l'héritage de la pensée française. Nous sommes peut-être plus mal disposés aujourd'hui à comprendre ce nombre de choses ici, dans ce territoire-là, qu'ailleurs. On parlait tout à l'heure avec Antoine Febvre, très beau colloque en Allemagne sur Franz von Baader. Quelle nostalgie. Et cette herméneutique d'origine allemande, avec Schleiermacher, Diltay, plus tard Jaspers, Gadamer et bien d'autres, elle a permis de valider une autre intelligence complémentaire de la première, intelligence des textes, des œuvres de l'esprit, y incluant représentation et comportement liturgique, rituel. Et cette compréhension, elle impliquait que à l'explication s'ajoute autre chose, s'ajoute une démarche de saisie intuitive de l'intentionnalité qui préside à la naissance de ces œuvres. Une quête de la compréhension, prendre avec, se mettre à la place d'eux, qui ouvre par conséquent une voie alternative à cette objectivité froide hein, qu'on exige du philologue, qu'on exige du psychologue, qu'on exige du sociologue. Et dans cette herméneutique qui va progressivement trouver son chemin dans les instances universitaires européennes, on va voir apparaître effectivement une subjectivation, une première subjectivation du savoir, où les langages textuels et visuels ne sont plus simplement traités comme des objets, mais comme des expressions de l'esprit que l'on ne peut saisir que par un certain nombre de présupposés, présupposés qui sont toujours risqués et qui rendent possible précisément une compréhension des signes comme symboles. Je crois que c'est le passage essentiel de l'entrée de la pensée symbolique dans le champ de ce que l'Occident a appelé les sciences de l'homme. Car la pensée symbolique est une pensée qui n'est pas réductible précisément à la simple intelligence des signes, puisque comme l'a développé l'herméneutique française, pour parler de la plus proche, hein, celle de Paul Ricoeur par exemple, les signes visuels ou subtextuels ont toujours un sens propre, mais ils peuvent aussi avoir un sens figuré, de la métaphore. Les sens premiers peuvent avoir des sens seconds, mais ce sens figuré, ce sens second, il n'est jamais rendu nécessaire, il n'est jamais inscrit comme une contrainte dans la lecture des textes ou des œuvres. Et donc cette ouverture à la pensée seconde, cette ouverture à la pensée symbolique, exige un acte d'interprétation et un acte qui présuppose effectivement une intentionnalité cachée dans les signes et cachée dans l'intentionnalité, dans les visées de celui qui a écrit ou peint. Et donc il me semble que il y a dans ce moment de l'aventure herméneutique du XXe siècle un moment essentiel où le modèle des sciences objectives, des sciences conceptuelles, a accepté d'intégrer le risque de la signification équivoque et le risque que c'est bien le récepteur qui va, à un moment donné, choisir le niveau de signification de ce qui a été émis par un auteur. Et cette ouverture des sciences de l'homme à l'herméneutique implique qu'il y a dans les œuvres de l'esprit à la fois de la contrainte et de la liberté. Les symboles sont à la fois liés, c'est-à-dire autres que conventionnels ou arbitraires, ils sont liés par des liens de signification, mais ils sont aussi libres, c'est-à-dire qu'ils sont toujours le résultat d'une décision de l'esprit qui est capable de déchiffrer, qui est capable de lire du sens par un acte de l'esprit. Mais un troisième niveau est inévitable. Et ce troisième niveau, c'est une relation, cette fois-ci, non plus simplement compréhensive, hein, c'est le Verstehen allemand par rapport au Erklären expliqué, c'est celui d'une approche participative, intérieure à la compréhension. C'est ce moment où l'interprétation s'accompagne d'une appropriation subjective d'un texte ou d'une image comme vérité. Et c'est là que l'épistémé, qui était devenu logos dans l'interprétation, devient sophia. C'est-à-dire savoir, pas simplement théorétique, mais savoir opératif, qui implique le sujet connaissant et le transforme de l'intérieur par l'acte même de connaissance. C'est ça, la gnose. François l'a magnifiquement montré tout à l'heure. Mais alors, le contact avec les savoirs, qui s'opère à l'intérieur de l'enceinte des académies, va produire une transformation qui ouvre sur de la croyance, qui ouvre sur de la foi. On passe de l'explication à la compréhension et de la compréhension à l'implication. Celui qui a commencé comme savant devient progressivement témoin participatif et finalement porteur d'une conviction, d'une mission, d'une prophétie. On le voit, il y a, me semble-t-il, ici, trois barreaux d'une échelle que l'on gravit inévitablement lorsqu'on entre au contact d'un certain nombre d'œuvres qui sont mises à notre disposition par la transmission universitaire du savoir en Occident. Chacune de ces relations aux œuvres a son ordre d'exigence méthodologique, épistémologique et même pédagogique. Mais l'ensemble s'emboîte dans un ensemble surplombant, bien que chacun de ces ordres puisse être mis en œuvre de manière autonome. Peut-être ne fait-on que retrouver ici, au cours de cette rétrospective des procédés des sciences humaines de la fin du XXe siècle, ce qui est en germe dans l'art de comprendre et de lire les textes religieux depuis le Moyen-Âge, et que l'on avait souvent coutume de comparer aux différentes couches d'un fruit, où on passe de l'écorce jusqu'au noyau, suivant ce que Henri de Lubac avait très bien systématisé à travers ces niveaux du sens littéral, du sens allégorique, du sens tropologique, du sens moral ou mystique. Ainsi donc, il me semble important de rappeler ici, pour commencer, que les relations chez ou en Henri Corbin et Gilbert Durand de la science et de la gnose, ce rapport doit être resitué dans ce paradigme épocal qui a permis de l'intérieur même de la production du savoir cette possibilité d'approcher des œuvres de l'esprit selon différents niveaux. Dès lors, se repose la question fondamentale, comment ont-ils pu lire les productions des œuvres occidentales ou orientales? Comment, d'une certaine manière, se tiennent-ils par rapport aux sciences de l'homme? Il me semble que le point commun fondamental est qu'il s'agit de bien comprendre dans sa visée épistémologique et pas simplement spirituelle. C'est évidemment ce dont vient de nous parler Françoise, à savoir que les savoirs que nous avons progressivement accumulés sur nous-mêmes au fil des siècles constituent une culture qui s'est profondément sécularisée, qui s'est profondément libérée de la croyance et du mythe, et qui par conséquent constitue paradoxalement un accroissement de connaissances, mais en même temps un obscurcissement de la connaissance. Cette proposition, cette conviction, cette intuition qui leur est commune initialement, est évidemment d'une certaine manière en rupture profonde avec ce qui motive la plupart des chercheurs, des professeurs, des enseignants-chercheurs, comme on dit aujourd'hui, dans le domaine des sciences humaines, pour qui la production des savoirs sur les textes et les images constitue une forme d'émancipation, une forme de libération, une forme de progrès de la raison. Or, aussi bien Henri Corbin que Gilbert Durand ont soutenu que cette accumulation démultipliée par le nombre et la nomenclature des disciplines, que cette accumulation était en fait un appauvrissement de la culture et entraînait un morcellement et une décomposition de la compréhension même de l'homme. Mais paradoxalement, et surtout pour Gilbert Durand, il me semble que cette interprétation téléologique, régression à la place de progression, appauvrissement à la place d'enrichissement, cette interprétation téléologique et axiologique de ce sur quoi ils étaient amenés à travailler, se veut encore une proposition rationnelle, surtout chez Gilbert Durand, dans la mesure où, mais Henri Corbin aussi, François l'a rappelé tout à l'heure, pense à travers une proposition à la fois métaphysique et historiquement argumentée, que la lecture que les spécialistes des sciences humaines et sociales font de leur propre histoire est une lecture mythifiante, qu'il s'agit de démystifier. Car qui a fait de l'apparition des sciences humaines et sociales un progrès? Le mythe de l'histoire sécularisé, le mythe de l'histoire laïcisé, le mythe de l'histoire historicisé. Et donc, en renversant en quelque sorte l'herméneutique orthodoxe et officielle, Gilbert Durand et Henri Corbin opèrent eux-mêmes une sorte de démystification d'une idéologie du progrès et cherchent à libérer la lecture par un anti-progressisme, par un anti-historicisme, cherchent à libérer donc le regard pour une nouvelle manière de lire et d'interpréter les œuvres de l'esprit. Mais dès lors s'ouvre un paradoxe à nouveau, voire une antithèse, car Gilbert Durand, comme Henri Corbin, mais Gilbert Durand étant ici par son choix de l'appartenance à l'anthropologie exposée au premier rang, Henri Corbin et Gilbert Durand me semblent être face à une proposition antithétique. Car d'un côté, ils viennent de soutenir, par une argumentation largement rationnelle, que les sciences humaines sont le produit d'une histoire non pas progressiste, mais régressive. Mais en même temps, il me semble essentiel de rappeler que ces sciences humaines sont aujourd'hui même le terrain d'éclosion de signes, et François l'a très bien montré à propos de cette rénovation possible, sont le signe que les sciences humaines sont capables, par elles-mêmes, dans certains de leurs interstices, dans certains de leurs travaux, de produire leur propre dépassement. Alors, je voudrais revenir rapidement sur ce paradoxe qui est sans doute le plus difficile à comprendre très souvent concernant l'anthropologie de Gilbert Durand. Donc, première proposition, le savoir des sciences humaines est un savoir aujourd'hui démultiplié, fragmenté par la nomenclature des disciplines et qui entraîne un primat unilatéral de l'objectivation, de la quantification et donc d'une abstraction de l'homme. Avec en particulier cette proposition qui est issu du grand mythe historiciste et progressiste, selon lequel ce qui est au commencement est simple, ce qui veut dire que l'histoire ancienne nous mettrait aux prises avec un homme primitif, alors que l'homme, au fur et à mesure de l'histoire, accéderait par son développement à une complexification de plus en plus croissante. Or, aussi bien Gilbert Durand qu'un ensemble d'autres compagnons spirituels, je pense ici évidemment à Berdiaev ou Guénon, ont bien montré comment la conception de l'homme dans le passé était infiniment plus complexe que les conceptions modernes, et que le passage notamment après la Renaissance de la triplicité anthropologique à la dualité anthropologique, l'abandon de la topologie de l'âme a été non pas un progrès, mais une véritable catastrophe, une véritable réduction des savoirs de l'homme sur lui-même. Il est facile également de voir combien, pour Gilbert Durand comme pour l'ensemble des anthropologues traditionnels, les sciences humaines sont restées très longtemps à l'abri de grandes conceptions métaphysiques, platoniciennes et néoplatoniciennes, alors que le positivisme, au contraire, cherchait à s'émanciper de toute relation métaphysique. C'est le propre même de la tradition du positivisme française, illustrée par Auguste Comte. Mais cette lecture-là est en fait... je crois que la proposition la plus surprenante et que nous devons assumer est celle de pouvoir néanmoins voir dans les sciences humaines, dans les impasses de leur savoir, des signes de ce qu'on pourrait appeler un véritable retournement. Retournement que Gilbert Durand a longuement explicité et assumé, en montrant combien la lecture de l'homme pouvait d'une certaine manière bénéficier de l'apport et de l'intégration des savoirs contemporains. C'est dans les belles conférences d'Eranos, reprises dans « Sciences de l'homme et tradition », que je crois que Gilbert Durand opère le plus cette étonnante, non pas récupération, mais dépassement. La toute première proposition étant effectivement de soutenir à la fois que les sciences de l'homme avaient sacrifié la pensée du mythe au profit de la pensée de l'histoire, tout en revendiquant que des mythocritiques et des mythoanalyses nées sur le terreau des sciences positives pouvaient permettre précisément de participer à cette reconnaissance du caractère fondamentalement hermétique de la pensée mythique. Il y a donc ici, je dirais, l'amorce de ce que j'appelle une ruse de l'histoire chez Gilbert Durand, qui consiste à retourner le gant, à retourner le savoir contemporain pour le remettre au service de la tradition. Il y aurait de nombreuses citations à faire, mais je ne veux pas empiéter sur les temps, le temps qui court. Je prends simplement... une ou deux formules qui sont extraites de conférences d'Eranos. Les sciences peuvent aider la tradition, mais la tradition préexiste à toute formation de l'esprit scientifique. Donc là, nous retrouvons effectivement cette idée qu'il faut éviter tout concordisme. Mais dans un autre passage, il écrit bien « L'homme traditionnel n'est pas obligé de récuser les données et les conquêtes de la science. Dans sa vision cosmique ordonnée des choses, il peut remettre à sa place la machine que lui offre la technique, etc. » Donc, vous voyez, il me semble très, très important de reconnaître qu'il y a chez... Gilbert Durand surtout, cette option, non pas d'une réconciliation entre les sciences et la tradition, mais d'un emboîtement possible d'un certain nombre de ces savoirs, hein, dans une logique que j'appellerais assez hegelienne de l'Aufhebung, et où le moment négatif peut, à un moment donné, être réintégré dans un processus, non pas de totalisation, hein, mais, je répète, d'emboîtement. Alors cela m'amènerait à essayer de comprendre, pour finir, cette idée d'une science ésotérique. En effet, Gilbert Durand comme Henri Corbin me semblent être tous les deux porteurs d'une vocation bifrance. Une vocation bifrance qui fait que la pensée intellectuelle marche bien sur deux jambes, mais l'une boitant dans le monde. C'est une image chère à Merleau-Ponty, la pensée qui boite. Et cette pensée qui boite me semble être une image de cette position difficile, hein, de se tenir à l'interface entre la tradition, la gnose d'un côté, et des sciences décadentes et perverties de l'autre. Comment y faire face? Eh bien, je dirais par un double pluralisme. D'abord, le pluralisme que j'appellerais horizontal des lieux. Des lieux d'expression et de diffusion du savoir. En effet, aussi bien Gilbert que Henri me semblent avoir eu l'intelligence de développer des vocations académiques en des lieux différents, de produire des textes dans des instances multiples. Et on a évoqué tout à l'heure certaines cécités de l'université, et peut-être faudrait-il revenir ici sur l'Université Saint-Jean de Jérusalem, qui a été, me semble-t-il, un très bel exemple de cette instance intermédiaire, hein, entre des sociétés fermées de production du savoir, comme les loges, et ces sociétés ouvertes que sont les universités. Gilbert Durand a très tôt travaillé sur Joseph de Maistre, on le sait. Et c'est étonnant d'ailleurs de voir comment ce texte, qui avait disparu dans la deuxième édition des sciences de l'homme et de la tradition, a été repris dans la publication récente faite par Michel Maffesoli au CNRS. Tribulation de ce texte me semble tout à fait significative, hein, de cette difficulté à situer précisément des textes d'implication spirituelle dans un corpus scientifique académique. Bien, parce que précisément il manque de plus en plus de ces lieux intermédiaires, hein, où, comme à l'époque des colloques de Venise ou de Washington, des universitaires, grands savants, aussi bien des sciences de la nature que des sciences de l'esprit, pouvaient se rencontrer dans un terrain intermédiaire. Il existe donc, me semble-t-il, aujourd'hui, toute une sorte de géopolitique subversive, hein, de l'académisme, qui permettrait de trouver des lieux pour penser la multiplicité des barreaux de l'échelle de la vie de l'esprit. Et puis, deuxième idée, c'est celle du pluralisme vertical que je viens d'évoquer. Il faut en effet rétablir, à l'image de Gilbert Durand et d'Henri Corbin, cette hiérarchie scalaire de compréhension des œuvres de l'esprit. Car les textes, comme les œuvres d'art, hein, sont des échelles que chacun peut gravir à sa manière. Et je crois que nous aurions tout intérêt à prendre comme paradigme parabolique l'herméneutique des œuvres d'art. L'herméneutique, par exemple, de la belle exposition qui a lieu au musée du Luxembourg, où les célèbres Vénus dormant dans la nature ne sont évidemment pas des œuvres érotiques, mais sont des œuvres alchimiques et des œuvres théosophiques. Mais rien n'interdit et rien ne peut s'opposer à lire d'abord ces images comme des images littérales. Eh bien, je crois que ce que nous ont appris Gilbert Durand et Henri Corbin, c'est que le savoir, il est tel celui que l'on peut avoir d'une main. D'une main, on peut effectivement en avoir un savoir purement anatomique, sauf si l'on voit que le doigt est pointé. Et si, regardant cette fois-ci le doigt pointé, on détourne la tête vers la lune, vers lequel pointe l'index. Je crois que le savoir des sciences de l'homme, quel que soit le corpus, c'est un savoir analogue à celui de la main, à charge pour chaque lecteur de se détourner de la main pour pointer la lune. Mais la lune elle-même ne saurait finalement être qu'un intermédiaire pour nous faire remonter à la source de la lumière, le soleil. Et c'est dans ce sens que je voudrais terminer sur une relecture de la parabole la plus célèbre de l'Occident philosophique, celle de la caverne de Platon. Dans la caverne de Platon, vous vous rappelez, il y a au fond de la caverne les images, mais ces images sont projetées par des porteurs de simulacres, des porteurs de flambeaux, des porteurs d'images qui sont sur le bord de la caverne. Eh bien, je crois que Gilbert Durand et Henri Corbin peuvent être assimilés à ces porteurs d'artefacts, les œuvres de l'esprit humain, des différentes traditions, dont les ombres sont projetées au fond de la caverne, qui sont par conséquent accessibles de manière exotérique à tout le monde. Et on sait que le cheminement du savoir platonicien consiste effectivement à remonter de la main à l'index et de l'index à la lune. C'est ce que permettent effectivement les porteurs d'images qui se tiennent au bord de la caverne. Mais eux-mêmes, ils ne sont que des intermédiaires. Ils ne sont que des intermédiaires qui, eux aussi, doivent remonter vers la source de la lumière, gravir encore la montée pour atteindre le soleil. Eh bien, ces porteurs d'œuvres qui se tiennent sur le bord de la caverne et qui ont les yeux tournés tantôt vers le bas, tantôt vers le haut, ce sont eux qui, tels Henri Corbin et Gilbert Durand, sont à la fois la condition pour que, dans la caverne, il continue à y avoir une possibilité de sens, mais ils sont en eux-mêmes toujours que des intermédiaires qui doivent nous permettre à tous de monter plus haut vers la source de la lumière. Merci.
D'avoir fait mieux que ça, d'avoir rattrapé le temps, mais aussi de nous avoir d'avoir creusé en fait avec nous, de nous avoir proposé de creuser ce paradoxe qui est véritablement le nôtre, en tout cas quand on est enseignant, chercheur comme moi, et quand nos sujets sont des sujets qui sont eux-mêmes des paradoxes ambulants, si je puis dire. Et vraiment, merci beaucoup, parce que c'est une question que je me suis très souvent posée en enseignant la littérature persane, en particulier la poésie mystique persane, de savoir quelle est la part d'académisme et la part en même temps de grâce qu'il faut transmettre aux étudiants. Et j'ai coutume de leur dire, Évidemment, je vous donne des savoirs et il faut que vous les connaissiez, ces savoirs, il faut que vous les assimiliez. Mais si cette littérature, à aucun moment, n'a transformé quelque chose en vous, allez faire autre chose. C'est pas la peine de faire de la littérature, en particulier de la littérature personnelle. Je crois que c'est vrai de toute la littérature, et c'est vrai aussi ô combien de la philosophie et de tous ces savoirs que Gilbert Durand et Henri Corbin ont transmis. Et avant de vous donner aussi la parole pour peut-être quelques questions, ça m'a fait penser aussi, ce que vous m'avez dit, m'a fait penser à une anecdote qui est racontée diversement au sujet de la vie de Rumi, donc je vais juste la résumer. C'est, on dit que Rumi était un très grand savant, Jalaluddin Rumi, le poète mystique persan du XIIIe siècle, était donc un très grand savant qui, en théologie, mais aussi en gnose en réalité. Il avait été initié à la gnose par son père, et un jour il était en train de lire les œuvres de son père, dans lesquelles était donc consigné tout ce savoir gnostique dont il était le dépositaire. Et arrive donc Shams, qui sera son maître et son bien-aimé, et Shams lui dit: mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et Rumi lui répond: oh, je suis en train de lire des œuvres qui parlent des degrés de la connaissance, qu'est-ce que tu peux comprendre de ça? Que Shams était un bien différent, qui n'avait pas l'air très savant comme ça. Et Shams lui prend le livre et le jette dans l'eau ou dans le feu, selon certains, met le feu au livre, selon certaines nations. C'est évidemment pas de l'histoire, c'est du mythe. Et à ce moment-là, Rumi lui dit: mais qu'est-ce que tu fais? Tu as jeté ça, ces manuscrits étaient uniques, une valeur incroyable, c'est quoi? Et à ce moment-là, Shams reprend le livre de l'eau, à ce moment-là il est sec, ou dans le feu, et il le reconstitue évidemment dans son intégrité physique. Et Rumi lui dit: mais qu'est-ce que tu as fait là? Mais comment tu as fait ça? Il dit: oh, ça a à voir avec la connaissance des états. Qu'as-tu à faire de cela? Et maintenant, si vous avez des questions. Vous êtes particulièrement refroidi ou au contraire submergé par la profondeur des propos qui sont tenus ce matin. Oui,
je m'en prie. Merci pour cette belle clarté. Alors, c'est aux spécialistes de l'imaginaire là que je m'adresse pour une question. C'est à propos des trois niveaux présentés tout à l'heure, explication, compréhension et participation, implication. Et si on porte sur le deuxième niveau, tu as dit, si j'ai bien noté, que les symboles sont susceptibles d'être interprétés par un acte de l'esprit. Bon, très bien. Mais quid des instances qui fixeraient les limites de l'interprétation, qui en décident? Sinon, l'interprétation peut être illimitée. Alors, si la question m'importe, c'est surtout parce que ce deuxième niveau débouche sur le troisième.
Oui. C'est la question de la force et de la faiblesse de l'herméneutique, dans la mesure où l'herméneutique travaillant par analogie est évidemment tentée par une recherche de l'analogie à l'infini. C'est bien ce qu'un certain nombre de sémiologues ont reproché à toute herméneutique. Je pense ici aux travaux d'Umberto Eco, qui a été à la fois très ouvert et en même temps très critique. Il y a quelques pages sévères à l'égard de Gilbert Durand, chez Umberto Eco, intéressantes, à propos d'alchimie précisément, en disant qu'avec l'alchimie, dans le fond, tout renvoie à tout. Et donc, effectivement, il n'y a plus de science possible de la symbolique, parce que l'analogie, les symbolisés s'enchaînent à l'infini. Et je crois qu'il y a, d'une certaine manière, à montrer qu'il y a, dans la pensée symbolique, reprendre ce couple, le concept que j'ai utilisé, emprunté originellement à Freud, il y a de la liaison et de la déliaison. Mais il faut rétablir de la liaison. Autrement dit, c'est pas arbitraire. tout ne renvoie pas à tout. On le voit bien dans la symbolique des couleurs, puisqu'il y a des symbolismes de la couleur ici présents. Donc la question, c'est quand même la motivation dont on peut rendre raison par un travail d'interprétation, et qui limite en quelque sorte à l'infini la sélection des analogies. Mais je dirais qu'on est ici devant ce que Pascal appelait l'esprit de finesse, c'est pas l'esprit de géométrie, c'est tout le problème. L'herméneutique doit être réglée par une éthique de la finesse, et non pas par une épistémologie de la géométrie. Et c'est ce qui fait qu'elle reste ouverte, elle reste profondément ouverte, elle ne peut pas se clore en des systèmes qu'une certaine interprétation des structures avait rendu possible. Combien de lecteurs naïfs utilisent les structures anthropologiques imaginaires comme un système de codage, comme un système de codage qui appauvrit. C'est évidemment le contraire de l'esprit hermétique. Mais là encore, la voie, c'est le chemin de Crète, chemin de la Crète de la pensée analogique, symbolique, de trouver suffisamment de richesse pour déployer le sens caché, mais de se sentir suffisamment habité par un horizon de vérité pour ne pas se laisser aller à une exubérance des liaisons qu'une certaine, probablement, alchimie déréglée a rendu fragile.